Bonjour à tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. J'ai commencé à vous raconter la semaine dernière donc la vie d'un couple, hein, Maurice Thorez et Jeannette Vermersch. Donc Maurice Thorez, après avoir déserté, se retrouve à Moscou. Il y arrive le 8 novembre 1939. Jeannette, je ne dis pas sa femme parce qu'ils sont pas encore mariés, Jeannette et Jean l'y ont précédé. Alors ils sont logés dans un vaste ghetto de luxe. Mais interdiction d'en sortir. Maurice et Jeannette vivent donc dans un pays dont ils ne savent rien de la vie quotidienne. Ils ne fréquenteront jamais aucun soviétique ordinaire. Alors s'ils sont invités par les autorités, Jeannette n'a aucune existence politique. Elle est la femme de Thorez. Elle est femme au foyer, si on peut dire, parce que tout est géré par les soviétiques. Elle est enceinte et le 14 août 1940, à la maternité, elle met au monde Paul. Dès son arrivée à Moscou, Thorez se met au travail. Il reste le secrétaire général du Parti communiste français. Il reçoit des informations par télégramme ou par des messagers. Alors il faut se rappeler que Thorez a accepté le pacte germano-soviétique, si bien que son malaise grandit avec l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et de la France par l'armée allemande. En France, le Parti communiste subit une large répression. Beaucoup de camarades sont en prison. En avril 1940, un décret a été signé qui punit de mort toute atteinte à la défense nationale. Les communistes ont érigé un texte co-signé par Thorez et Duclos, fait appel à la résistance pour faire pendant à De Gaulle. Maurice fête à Moscou le 20e anniversaire de la création du Parti communiste. Le 22 juin, l'armée allemande envahit l'Union soviétique. Une radio française est créée. On y entend Dimitrov. Alors Dimitrov, ça n'est pas un russe, hein, c'est un pseudonyme pour la résistance de Jean Mérot. Dire que le moment est venu de contracter et de nouer des liens étroits avec le mouvement gaulliste dont les partisans comprennent que la lutte héroïque du peuple soviétique contre l'agression hitlérienne ne correspond aux intérêts du peuple français et que la libération de la France est liée à la victoire de l'Union soviétique. L'URSS pense alors à envoyer Thorez, Marty, Guyot en Angleterre pour conférer avec l'état-major du général de Gaulle. Ensuite, ils rentreront en France ou dans les colonies françaises. Alors on prend contact. Pour De Gaulle et pour Churchill, c'est, j'allais dire, niet, c'est non. L'avance allemande est fulgurante, Moscou est bombardée, on évacue les archives du Comintern, les femmes et les enfants des fonctionnaires. Ils partent le 11 juillet pour Gorki. Jeannette, Jean et Paul font partie du convoi, alors que Thorez, lui, reste à Moscou. À Gorki, le ravitaillement est difficile. Le 11 octobre 1941, les fonctionnaires de Moscou, l'école du parti, l'école de la radio, quittent la ville de Oufa. Oufa, c'est à l'ouest de la Russie. Thorez suit. Il est logé dans un grand appartement dans une maison qui ressemble à une caserne. Jeannette le rejoint. Maurice a ouvert un petit cahier où il note les titres de ses lectures, des citations et des commentaires, parce que la lecture est vraiment sa passion. Il lit aussi bien la correspondance de Marx à Engels en allemand qu'Historia en russe. Il est doué pour les langues. Les Thorez logent dans un petit logement d'une chambre, une cuisine et une salle de bain. Et le froid est si intense qu'ils ont du mal à se chauffer. Les étrangers sont isolés, aucun contact avec les soviétiques. Maurice reçoit un peu d'approvisionnement. La situation est telle que personne n'a l'idée de s'écrier, comme l'a fait Aragon, « Hourra l'Oural ». Oui. L'hiver est si terrible, le ravitaillement si mauvais que certains tombent malades. Le travail de ces exilés consiste à quoi faire ? Eh bien, à émettre à destination de l'étranger. Il faut rivaliser avec une autre radio, c'est-à-dire avec la radio anglaise, et utiliser les ondes comme arme de guerre. On émet aussi en français. Il semble que malgré l'insistance de l'humanité, très peu de communistes français écoutent la radio. Le 5 février 1943, Thorez est de retour à Moscou. Dès le mois de mai 1943, on parle de la dissolution de l'Internationale. Staline décide qu'il est temps de dissoudre le Comintern. L'armée soviétique vole de victoire en victoire. Juin 1943, plus d'Internationale, plus de Comintern. Thorez, alors, tanne Dimitrov pour revenir en France après que de Gaulle a fondé à Alger un gouvernement le 3 juin 1943. Ben pour l'instant, c'est non. Le 18 mars 1944, Pierre Caux, c'est un homme politique, il était dans l'Action catholique au début de sa vie, puis après ça, il a complètement viré à gauche, arrive à Moscou. Il rencontre Thorez, qui lui est extrêmement sympathique. Il dit de lui, si tous les Français de France avaient la même ouverture d'esprit et surtout le même désintéressement, le redressement de la France serait facile. Il oublie de dire quand même qu'il a déserté. Le 25 avril, il envoie un rapport sur le cas Thorez. Il dit que tôt ou tard, il faudra bien qu'il rentre en France. La question est de savoir comment et dans quel état d'esprit il sera accueilli. Or, il est toujours le secrétaire général d'un parti qui joue un grand rôle dans la résistance et qui jouera un rôle non moins grand dans la reconstruction de la France. Thorez est populaire au-delà même des rangs de ce parti. S'il veut se rendre à Alger, c'est dans un esprit favorable au CFLN, Comité français de libération nationale, un esprit de conciliation. Il a été toujours si conciliant, vraiment, parmi les communistes français, que ça pourrait marcher. Ne pas le laisser revenir serait prendre le risque de créer chez les communistes du ressentiment. La décision de déserter ne fut pas une décision personnelle, mais celle de son parti. Ça, c'est vrai. Il suggère de prendre en considération l'aspect international du cas Thorez. Il a des réseaux qui pourraient être utiles dans les Balkans et en Europe centrale. Le PCF alors mène une campagne pour le retour de Thorez. Pour l'instant, c'est le silence. Thorez ronge son frein à Moscou avec Jeannette. 6 juin 44, bien sûr, libération de la France. Thorez envoie plusieurs télégrammes à De Gaulle. 28 octobre 1944. Donc, ce dernier, finalement, l'amnistie. Donc, il peut faire des passeports. En octobre 1944, une enquête a demandé aux Parisiens s'ils sont pour le retour de Thorez. Il y a quand même 67% qui sont contre. Nouvelle question en décembre, après l'amnistie, 63% sont encore contre. En province, 40% sont pour, 38% sont contre. Les Thorez quittent alors Moscou le 20 novembre 1944 et ils arrivent à la base militaire d'Istres le 26. Nous allons faire une première pause musicale.
Молода из полого ведра. Где? Что? Не лед трещит, а не комар пищит. Это куда кумы отсюда гадачи? Это как он? Ой, кумушка, да ты голубушка, с ларьком судака, чтобы юшка была. Трэфон, трэфон! Ой, юшечка, да с петрушечкой, поцелуй ты меня, кумадушечка. Судака, чтобы юшка была.
Эхо, эхо.
Ой, юшечка, да с петрушечкой, поцелуй ты меня, кумадушечка. Ой, ну поцелуй, ну поцелуй, кума.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Maurice Thorez et Jeannette Vermech, qui, ayant séjourné pendant toute la guerre à Moscou, reviennent. Le 27 novembre 1944, ils sont à Paris. La famille s'installe dans une propriété absolument superbe, a choisi le roi. À Moscou, Thorez a vu les privilèges qui étaient accordés aux dirigeants. Il en a bénéficié, bien sûr, et alors il considère comme légitime que le parti marque par son train de vie les égards auxquels il a droit, comme le fait le parti communiste de l'Union soviétique à l'égard de ses dirigeants. Alors le parti organise une manifestation en son honneur au Veldiv. Elle est présidée par Marcel Cachin, directeur de l'Humanité, il était licencié en philosophie. Discours de Thorez, une amitié véritable doit unir la France à l'URSS. Voilà ce qu'il dit. Il se présente comme le chef d'un parti soucieux des seuls intérêts de la nation. Pas un mot sur De Gaulle, qui pourtant l'a amnistié. Hein. On entonne l'International. Jeannette se voit attribuer le rôle d'incarner la femme communiste. Alors, il faut évidemment un pendant amoriste. Paraît alors le premier numéro de Femme française. À la une, photo de Danielle Casanova, morte du typhus à Auschwitz. Même si Thorez a envoyé un télégramme au général de Gaulle, où il lui dit « Je vous remercie de la mesure de bienveillance que vous avez bien voulu prendre à mon égard », eh bien, c'est tout ce qu'il dira. Il n'en remerciera pas De Gaulle davantage après. Alors, capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, et l'heure des congrès est venue. Congrès constitutif de l'Union des femmes françaises et du 10e congrès du Parti communiste. À la tête de l'Union des femmes françaises, il y a Eugénie Coton, élève de Marie Curie, et puis qui était mariée au physicien André Coton. Elle est directrice de l'École normale supérieure de Sèvres. En fait aussi partie, Irène Joliot-Curie. Et dans le comité de direction, Jeannette Marie-Claude Vaillant-Couturier. Le 10e congrès voit l'explosion du parti. 814 000 adhérents. Victoire dans 1999 communes. Composition du secrétariat. Alors on a Thorez, Duclos, Marty. Dans le bureau politique, Charles Tillon, Marc Dupuis, Léon Mauvais, Étienne Fajon et Valdec Rochet. 7 femmes sont membres suppléantes, évidemment, dont Jeannette. Pour Maurice, le parti doit faire face à 3 combats. Bataille de la production, bataille électorale, bataille politique. Alors, bataille de la production, le général de Gaulle a nationalisé les mines. Pénurie dans le charbon, aucune vie n'est possible. La pénurie de charbon à la libération prolonge celle de l'occupation. On ne peut pas importer. La pénurie, d'ailleurs, est générale en Europe. Et dans une réunion dans le Nord, Torres demande aux jeunes mineurs de faire un effort et de ne déclencher aucune grève. Les premières élections législatives de la Libération sont un véritable triomphe pour le Parti communiste. Il a 26,2% des suffrages exprimés contre 23,5% pour les socialistes, 23,9% pour le MRP. Le MRP, c'est le Mouvement Républicain Populaire, fondé, qui va marcher de 44 à 67. 159 députés. Thorez est député de la Seine. Jeannette est aussi élue dans la liste de Marcel Cachin. Et qui on a comme chef du gouvernement ? Alors, le parti voudrait bien que ce soit Thorez. Tous les autres partis sont pour le général de Gaulle. Et par 550 voix sur 555 et une abstention, de Gaulle devient le chef du gouvernement. Alors, il forme le gouvernement. Les communistes, eux, ben, veulent en faire partie. Ils veulent l'intérieur, les affaires étrangères, la défense nationale. C'est quand même beaucoup. Donc, pour de Gaulle, c'est non. Cependant, ils font quand même partie du gouvernement. On a Thorez qui devient ministre d'État en charge de la fonction publique, François Billoux qui reçoit l'économie nationale, puis Charles Tillon, l'armement, Ambroise Croizat, le travail, et Marcel Paul, la production industrielle. Très vite, de Gaulle ne supporte plus ce gouvernement où les partis se disputent sans arrêt entre eux. Le dimanche 20 janvier 1946, il réunit son gouvernement, dit qu'il n'a pas les moyens, sauf à établir une dictature, d'empêcher le régime exclusif des partis, et alors, ben il s'en va. Il faut donc trouver un successeur qui ne déplaise à aucun des trois partis. En attendant, élection le 2 juin 1946. Tassement du vote communiste. Je vous passe les dessous des tractations parce que c'est affreux. C'est la crise. Personne n'arrive à rassembler une majorité sur son nom. Finalement, Blum accepte de constituer un gouvernement malgré sa fatigue. Il a quand même 74 ans. Et en plus, il faut penser qu'il a été interné à Buchenwald. Donc, il propose des postes aux communistes. Les communistes refusent parce que qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent évidemment les trois grands ministères. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Finalement, c'est un gouvernement socialiste homogène. Seulement, Blum est fatigué. Il dit qu'il renonce, que dès l'élection du président de la République, il renoncera. Alors, élection du président de la République, Vincent Auriol est élu et Léon Blum, donc, démissionne. Vincent Auriol, il est élu, il est issu de la Haute-Garonne. Il avait été ministre des Finances sous Léon Blum. Le 17 janvier, il commence donc ses consultations pour former un gouvernement. Thorez retrouve son poste de vice-président du Conseil ainsi que son titre de ministre d'État. Le gouvernement est présidé par le socialiste Ramadier. Trois communistes au gouvernement, Tillon à la reconstruction, Croizat au travail et à la sécurité sociale, et Georges Marans à la santé publique et à la population. Le 4 mai 1947, Paul Ramadier s'en sépare. Pendant 2 ans, Thorez est à la fois secrétaire général du Parti communiste français et membre du gouvernement. Il lui faut gérer les affaires du parti et celles de la France. Et ce n'est pas facile du tout, surtout dans deux domaines. Celui de l'Indochine, qui lutte pour sa libération. Elle est dirigée, l'Indochine, à ce moment-là, par un communiste, Ho Chi Minh. Et l'autre, c'est le pouvoir d'achat des couches populaires qui constitue le gros des électeurs du Parti communiste dans une France qui peine à se reconstruire. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Веселись и любовь, и здоров, и быстрее еще, чем море, поезд, чистый сапог. И здоров, и любовь, и здоров, и быстрее еще, чем море, поезд, чистый сапог. И быстрее еще, чем море.
Je suis sur Radio Grand Ciel, bien sûr, et je vous raconte la vie de Maurice Thorez et Jeannette Vermersch et la situation de la France juste après la guerre. Vincent Auriol a été élu président de la République. On a encore de grosses difficultés à ce que la France se reconstruise. Ces années qui suivent la guerre voient le culte des morts de la résistance. À cette occasion, Thorez fait l'objet de dénonciations concernant sa désertion. S'il est populaire dans son parti, il ne l'est pas dans le pays. Je vais vous donner un exemple. Le 23 mai 1946, à Moulins, le ministre de l'Intérieur socialiste, c'est André Le Troquer, traite publiquement Thorez de déserteur. Des tracts circulent ou même sont collés. Son train de vie donne lieu aussi à des commentaires désobligeants. Par exemple, on peut lire « Visitez le château Thorez, 8 avenue de Versailles, a choisi le roi ». Au début de l'année 1947, les relations se tendent entre le Royaume-Uni et les États-Unis, d'une part, et l'Union soviétique, d'autre part. Vous savez, c'est ce qu'on a appelé la guerre froide. Le 11 mars 1947, Jacques Duclos annonce que le Parti communiste ne soutiendra pas la politique du gouvernement en Indochine. Les députés communistes ne votent pas les crédits militaires. Ahmadiyya se sépare alors des ministres communistes. En cette fin d'avril 1947, tout sépare les communistes du gouvernement. Désaccord sur la politique extérieure, sur l'Indochine. Désaccord sur la politique économique. Thorez dit qu'il ne veut pas démissionner. Ahmadiyya expose alors les articles 45, 46, 47 de la Constitution qui disent « Le président du Conseil choisit ses ministres et peut s'en séparer s'il est en désaccord avec eux ». Le deuxième congrès du Parti communiste a lieu à Strasbourg le 25 juin 1947. Pour la première fois, les femmes sont en nombre. Le rapport de Thorez dure 5 heures. Il tourne autour de l'objectif qui est le retour du parti au gouvernement. Et pour la première fois, Jeannette a les honneurs de présider une séance et de prendre la parole. Le culte de Jeannette est en marche. Staline convoque les dirigeants des 7 partis communistes de la zone d'influence soviétique en Pologne. Jacques Duclos et Étienne Fajon s'y rendent du 22 au 28 septembre 1947. Directive de Jdanov et Malenkov, Thorez prend alors la route de Moscou. Il y rencontre Staline. Ce dernier dit que les choses iraient mieux en France si l'armée rouge s'y était installée. Heureusement que non. Hein. Thorez affirme que le peuple français l'aurait bien accueilli. L'armée rouge, en attendant, les grèves éclatent partout. Le mécontentement est grand parce que les prix ne cessent de grimper. La pénurie en produits vitaux ne cesse pas. Les tickets de rationnement sont maintenus. Les conséquences de ces grèves sont lourdes pour le mouvement syndical. Il y a une grande scission qui s'opère à la CGT, qui devient la CGTFO le 12 avril 1948. Depuis le Front populaire, Thorez et Duclos circulent en voiture blindée, voiture digne d'un monarque. Dans le journal Ce Matin, Le RPF, ce Rassemblement du peuple français qui avait été créé par De Gaulle en avril 1947, on peut lire « Les ouvriers voient avec plaisir les coûteuses merveilles offertes par le PCF à son secrétaire ». Après son retrait du gouvernement, Thorez se consacre au parti. Il voyage à l'étranger et Jeannette, elle, règne sur la fabrication de la presse féminine. Femme française, Heure claire, ça ce sont les titres des parutions. En novembre 1949, elle se rend à Moscou pour organiser la campagne contre la guerre d'Indochine. 1949, célébration de beaucoup d'anniversaires. Un hommage à Daniel Casanova, décédé le 20 juillet. Célébration du 35e anniversaire de l'assassinat de Jaurès. Libération de Paris, le 21 août. Célébration aussi du coup de feu tiré par le colonel Fabien, je ne sais pas si vous vous souvenez, au métro Barbès. Hommage aux fusillés du Mont-Valérien. Et enfin, anniversaire de Staline, célébré de façon grandiose par le Parti communiste français. Trois mois après, c'est la glorification de Thorez pour son 50e anniversaire. Un timbre est même émis à son effigie. Les cadeaux abondent, des meetings dans toute la France. Mardi 10 octobre 1950, Maurice est victime d'un malaise dans sa voiture. On le transporte à la clinique. Médecin communiste à son chevet, bien sûr. Jeannette écrit au ministère des Affaires étrangères de l'Union soviétique pour que Thorez soit soigné en URSS. Eh bien, c'est d'accord. Un avion russe vient le chercher. Elle part avec lui. Maurice est soigné dans l'hôpital luxueux à Moscou, hôpital réservé, évidemment, aux hauts dignitaires du régime et non pas aux vulgaires communistes et à ceux du mouvement communiste international. On peut dire quand même une chose, c'est qu'il est bien soigné. À l'été 1951, il peut à nouveau travailler. Sa famille vient le voir, vacances aux morts de la mer Noire. Jeannette quitte Moscou le 1er septembre 1951. Elle prend part à la fête annuelle de l'humanité. On y célèbre bien sûr Thorez. Cependant, le parti ne va pas si bien que ça. Les adhérents sont de moins en moins nombreux. Il demeure bien sûr le premier parti de France, mais il ne fait pas partie du gouvernement. Thorez est toujours en URSS. Jeannette lui rend visite en septembre 1952. Des bruits circulent de son retour. Des tracts disent qu'il doit revenir en France. Dans les fédérations, alors, on se prépare. Les militants pensent que son retour, enrayera le déclin du parti. Le 17 octobre 1952, Aragon écrit « Thorez revient » dans un poème. En fait, Thorez va revenir le 8 avril 1953, c'est-à-dire un mois après la mort de Staline. Nous allons faire une troisième pause musicale.
Thank you.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Maurice Thorez et Jeannette Vermerch. Maurice Thorez qui a été soigné en URSS et qui revient en France le 8 avril 1953, juste un mois après la mort de Staline. Il n'a pas assisté aux obsèques. Le parti a préparé alors une nouvelle résidence pour son secrétaire, le parti français. Hein. C'est vraiment un endroit ravissant à Bazainville. Bazainville, ça se trouve dans les Yvelines, c'est pas loin de Houdan. L'achat se fait dans le plus grand secret. Les renseignements généraux mettent 10 jours à trouver la résidence. Jeannette et les enfants, donc, restent à Choisy. Le Times de Londres raconte l'achat de la maison qui a nécessité l'expulsion d'une famille de 5 enfants, les Dupuis. Et elle a coûté 30 millions. 30 millions de l'époque, c'est énorme. Hein. La maison reste la propriété du Parti communiste français. Eh bien, elle le restera jusqu'en l'an 2000, moment où ils vont vendre parce qu'ils ont des problèmes financiers. 1955, Edgar Faure dissout l'Assemblée. Pour la première fois depuis 7 Noëls, les Thorez passent en famille. 2 janvier 1956, élection générale, le Parti communiste gagne des voix et des sièges. Il a retrouvé le même nombre d'électeurs qu'en 1946. 15 femmes communistes à l'Assemblée nationale sur 19, dont Jeannette. Moscou continue d'envoyer un médecin pour suivre la santé de Thorez. Le parti loue une propriété entre Cannes et Mougins pour qu'il puisse se reposer. Cet achat suscite d'ailleurs une violente campagne de presse qui dénonce le luxe dans lequel vit le secrétaire général du Parti communiste. Pendant leur séjour, les Thorez fréquentent qui donc ? Picasso, Pignon, alors moi je ne connaissais pas trop, c'est un artiste peintre qui paraît-il est à l'origine de ce qu'on appelle l'art urbain. Nadia Léger, des communistes, Pierre Caux, Pierre Villon et son épouse Marie-Claude Vaillant-Couturier. Maurice en profite aussi pour apprendre le latin. Toute sa vie, Thorez va chercher à compenser par l'étude ce qu'il considère comme des lacunes dans sa culture générale. Il lit beaucoup des auteurs, évidemment pour la plupart communistes, Claude Roy ou Aragon. Dans sa bibliothèque, on ne trouve aucun ouvrage critique à l'égard du Parti communiste. Dans les mois qui suivent son retour, Jeannette aide souvent Maurice à préparer ses interventions. Il considère que le succès des élections de 1956, c'est un succès personnel finalement. Il reprend ses activités à la tête du parti. À Moscou se réunit le 20e congrès du Parti communiste, le premier depuis la mort de Staline. Thorez s'y rend avec Jacques Duclos, Pierre Doise. Le congrès est placé sous l'autorité d'une statue immense de Staline. Pas de portrait quand même. Hein. Le premier secrétaire à l'époque, c'est Nikita Khrouchtchev. Il le nomme 2 fois parmi les militants décédés depuis le 19e congrès. Les autres discours sont aussi muets sur Staline. Après le congrès, il y a une séance à huis clos. Et le 25 février, Khrouchtchev, lit un rapport de 4 heures. Il parle d'un dictateur paranoïaque, refermé sur lui, passablement incompétent, responsable de millions de morts et de l'exécution de milliers de communistes. Et alors, pour les communistes, on peut dire que c'est une secousse tellurique. Thorez reçoit par porteur spécial une copie du rapport Khrouchtchev, avec ordre de ne prendre aucune note et de le renvoyer très vite. Thorez rentre à Paris, le bureau politique se réunit le 13 mars, et au bureau politique, Thorez ne fait aucune allusion au rapport Khrouchtchev. Il redit la nécessité de s'allier avec les socialistes, la nécessité d'une direction collective à tous les échelons. Il termine, et je le cite, « Rien de tout cela ne saurait nous empêcher d'exalter le rôle considérable de Staline pour appliquer et développer les idées de Lénine. Ses mérites sont incommensurables. » Aucune allusion au rapport Khrouchtchev. La famille part pour les vacances de Pâques en Italie. Retour à Paris, Torres se consacre au parti, et voilà que le rapport Khrouchtchev entier circule en URSS et qu'on l'étudie. Alors Jeannette, elle en est indignée. Le bureau fait une déclaration disant que la presse bourgeoise a fait paraître un rapport du soi-disant Khrouchtchev. Quel aveuglement, hein. On décide d'envoyer une délégation à Moscou, Étienne Fajon, Marcel Servin, Valdec Rochet. Entretien avec Khrouchtchev, qui fait une déclaration qui est un véritable recul. Alors le Parti communiste français est tout content. Thorez guette tous les signes qui paraissent annuler le rapport Khrouchtchev. Ce dernier a déclaré, lors de la réunion du 1er janvier 1957, « Nous sommes fiers d'être staliniens ». Thorez commente, « Ainsi, il s'avère de plus en plus que notre parti a su le premier apprécier exactement le rôle de Staline, malgré ses quelques erreurs ». Jeannette épaule fortement son mari. Elle acquiert une stature internationale dans le monde communiste. Elle conduit fréquemment les délégations du parti français dans les pays frères. Maurice, lui, ne peut pas prendre l'avion à cause de ses problèmes de santé. Tous les deux partent encore en URSS, mais cette fois en bateau. Thorez y est reçu comme un chef d'État. Retour à Paris, où Maurice commente à la télévision la visite de Khrouchtchev. Les Thorez sont de toutes les réceptions. Alors je vous passe la guerre d'Algérie et l'antagonisme de Thorez vis-à-vis de De Gaulle. Ça serait beaucoup trop long. Le 12 mai 1964, le comité acclame Thorez qui vient de se dégager de son poste de secrétaire général. Il est remplacé par Valdec Rochet. Thorez peut partir alors en vacances. Le 6 juillet 1964, Jeannette et lui s'embarquent à Marseille. Escale à Gênes, en bateau bien sûr, hein, puisqu'il ne peut pas prendre l'avion. Maurice lit la comédie humaine. Le 10 juillet, ils sont au Pirée. À l'escale d'Istanbul, l'ambassadeur du RSS à Ankara vient saluer Thorez. Le samedi 11, en fin d'après-midi, Maurice sent une douleur au bras. Jeannette appelle le médecin. Eh bien, il est trop tard. Maurice meurt subitement. La nouvelle est annoncée le dimanche matin à la radio, alors que le navire entre dans le port de Varna. Ça se trouve en Bulgarie, hein, sur la mer Noire. Le 12 juillet, le bureau politique rend public une déclaration. Le Tupolev 104 de l'Aéroflot, qui transporte la dépouille, arrive au Bourget. Le cercueil, avec une ouverture vitrée, est exposé pendant 3 jours. Les obsèques ont lieu au Père Lachaise, le 16 juillet à 15h. Le gouvernement, à l'époque, c'est le gouvernement de Chaban-Delmas, refuse les honneurs militaires. La désertion de Thorez, bien sûr, a pesé dans cette décision. Le cercueil est déposé devant la tribune, à l'entrée du cimetière. Souslov, alors c'est un membre du Politburo, et il est là pour représenter évidemment l'URSS. Ce Souslov, on lui doit les purges au sein du parti. Et il était rédacteur en chef de la Pravda, et c'est lui qui a été le principal acteur, d'ailleurs, de la mise à l'écart de Khrouchtchev. Alors Souslov prend la parole, est présent l'ambassadeur de Chine, discours de Frachon et de Valdec Rochet. Eh bien, on peut dire que le culte de Maurice Thorez ne survivra pas à sa mort, malgré les efforts de Jeannette. Au revoir à tous.
Я не сияк стали, ще ви дали, серце живо, як сяк. grand.